Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Beauté et grandeur du sacerdoce, c'est le cœur de cette série avec pour intervenant et témoin un frère prêtre, un frère salésien. Bonjour Père Benjamin.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Père, bonjour frère, auteur bonjour, de ce frère. Livre. Paru aux éditions Artege, tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc ce sont les éditions, je crois, hein, d'après je dirais les renseignements que j'ai pu noter, qui vous ont demandé d'écrire cet ouvrage. Mm-hmm. Et vous avez dit oui. Vous avez dit oui pourquoi ?
Pour parler justement de la beauté du sacerdoce, la beauté de la vocation salésienne aussi. Hein. Ça intéressait un peu hein, si ça. Moi, je me dis s'il y a ne serait-ce qu'un jeune qui se, en lisant ce bouquin, se dit oh, en fait c'est trop beau, je rentre chez les Salésiens.
Communauté vieillissante, très présente dans le monde entier.
Oui, oui, très vieillissante en France, mais il y a quelques jeunes quand même. Mais c'est surtout que la mission est absolument abondante. Le charisme est extraordinaire, enfin, des Salésiens. Enfin, on a la chance d'être de ne pas avoir à chercher les jeunes, on les a sous la main parce que dans nos établissements scolaires, dans nos œuvres sociales, donc on les a là, il faut ils nous attendent.
Alors moi je vais tout de suite revenir sur cette beauté et cette grandeur du sacerdoce et puis ce qui se joue dans ce mystère aussi du sacerdoce avec ces grands sacrements et je pense tout particulièrement au sacrement de l'Eucharistie. Dans votre ouvrage, page 113, Jésus qui s'adresse à ses frères prêtres, dans ce livre à ceux que j'aime plus que tout, Jésus dit « Il faut que les prêtres qui se préparent à servir à l'autel comprennent bien que le Père s'apprête à leur confier des âmes et que pour ce faire, ils doivent devenir de plus en plus semblables à moi avant d'être ordonnés. » C'est un sacré programme de vie quand on y pense, parce que ce programme de Jésus a montré l'exemple, il est allé jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix pour sauver les âmes. Est-ce que c'est un peu le programme de tout frère prêtre? Alors c'est vous qui répondez, hein, pas pour vos confrères, mais comment répondez-vous?
Alors, ne pensez pas vous en tirer aussi facilement, Nathalie, parce que vous aussi, vous êtes appelée à cette transformation en Jésus-Christ. Mais
merci
à fortiori,
de me le rappeler.
Voilà.
Ouais.
Après, je ne sais pas dans quelle mesure il y a une. Je ne serais pas bien verbalisé la différence de transformation entre un prêtre ou un non-prêtre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un prêtre, il n'a pas le choix. Quoi. Il doit se laisser transformer en Christ, c'est-à-dire vraiment s'identifier, de plus en plus transformé en Christ, c'est-à-dire de vraiment penser, raisonner, réagir, sentir, voir, percevoir comme le Christ. Quoi. Donc il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire ça. Avec la Vierge Marie, comme elle a enfanté le Christ dans son corps, elle enfante le Christ dans le nôtre, j'ai envie de dire.
La mère de Saint Jean Bosco, et ça vous le rappelez aussi dans votre ouvrage, donc c'était la mère de votre fondateur, hein, Saint Jean Bosco salésien, juste après l'ordination de son fils, lui avait dit « Te voilà prêtre, chaque jour tu diras la messe, rappelle-toi bien ceci ». Commencer à dire la messe, c'est commencer à souffrir.
Mmh, oui,
ce n'est pas moi qui le dis.
Voilà.
C'est la mère de Saint Jean Bosco, votre fondateur.
Voilà,
hein.
Voilà, exactement, maman Marguerite. Et Jésus nous briefe aussi là-dessus dans l'évangile de Jean, en nous disant « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, par là où je suis passé, vous passerez vous aussi. Voilà, » donc. On sait par où il est passé, vous l'avez évoqué, par la croix. Et bien entendu, la croix, c'est juste c'est l'ingrédient indispensable du sacerdoce. Enfin, c'est la matière de notre travail, en fait, la croix. Alors, pourtant, moi, je suis assez étonné parce que pour l'instant, je suis très préservé. Alors, peut-être que le bon Dieu, il me préserve beaucoup pour que je sois au taquet sur le plus rentable possible. J'en sais rien, parce que si j'avais je ne sais pas quelle maladie ou quelle. Maladies de dépression ou que sais-je qui ralentissent, je sais pas, moi en tout cas je suis prêt à tout, j'attends. En attendant, je sais que d'autres souffrent pour moi et
alors,
offrent leur souffrance pour ma sacerdoce.
Alors permettez-moi, j'ai lu votre livre, j'ai suivi aussi quelques émissions de plateau télé sur lesquelles auxquelles vous avez participé. Mm-hmm. Vous êtes aujourd'hui peut-être gâté par le bon Dieu dans votre ministère sacerdotal, mais votre cœur d'enfant, vous êtes passé, vous avez connu, je dirais, on parle de ce chemin de croix, ce calvaire, ce rendez-vous à la croix, vos petites croix d'enfant, vos petites croix, il est peut-être cette petite croix aussi de l'abandon d'un père, hein. C'est une grande croix.
Alors oui, vous avez raison, j'avais oublié, je repose sur ses acquis peut-être, peut-être qu'il me laisse tranquille en attendant.
Alors, c'est vrai quitte le cœur du prêtre pour refaire un retour en arrière. C'est inscrit dans votre mémoire et votre cœur d'enfant. Vous avez souffert de l'abandon de ce papa.
Oui. Oui, c'est sans doute. C'est pour ça que la croix est indispensable, parce que c'est elle qui modèle notre cœur. Voilà. Alors, la vie avec son lot d'épreuves ne manque pas de modeler notre cœur, et le bon Dieu s'en sert. Je dis pas qu'il envoie ça comme un sadique du haut du ciel, du tout, hein, mais c'est incroyable comme lorsque la souffrance est traversée avec le Christ, elle prend une fécondité telle que c'était finalement mieux de souffrir que pas souffrir. Enfin, voilà, c'est peut-être choquant de dire ça, mais en fait, c'était peut-être mieux. Enfin, il s'est tellement tiré un bien supérieur que on est presque heureux. D'avoir traversé ça avec sa grâce est une et à tel point que c'est plus je peux en parler de ce sujet, je l'avais oublié, voyez-vous, c'est vous qui me le rappelez, mais avec légèreté et joie, parce que c'est plus du tout chargé émotionnellement, c'est guéri, quoi.
Mais le cœur du prêtre, qui est aussi un cœur d'enfant, est passé par l'épreuve de l'abandon, pour s'abandonner ensuite entre les mains de notre Père.
Ben oui, parce que la fameuse transformation en Jésus qui est recommandée là par Jésus à Conchita, devenir lui, quoi. C'est possible lorsqu'on meurt à soi-même. Donc c'est aussi cette expérience, oui, de l'abandon, de la détresse, lorsqu'il n'y a pas de Dieu dans tout ça, bah c'est dur, hein. Mais lorsqu'on a cette expérience de l'abandon et de la détresse nous pousse dans les bras du Père, voilà, enfin, nous pousse. Enfin, moi je trouve ça. Donc dans l'abandon, de s'abandonner totalement et de se laisser transformer, de lâcher tout, de dire je suis foutu sans Dieu, de toute façon je suis foutu. Voilà, enfin, il y a une espèce de conscience vive lorsqu'on traverse un peu quelques épreuves que on est foutu. SOS Dieu help, je suis foutu sans toi, c'est une phrase que je dois dire 500 fois par jour. Enfin, non, j'exagère peut-être, mais enfin en tout cas à certaines époques c'est bien ce que je répète sans cesse. Je suis foutu sans Dieu, et plus on en est convaincu, plus on le vie, plus c'est vibrant en nous, plus on se laisse agir, en fait, par le bon Dieu. C'est un peu, on pourrait trouver ça masochiste, mais en fait, c'est la seule voie de sanctification possible, c'est-à-dire se laisser totalement, parce qu'on est foutu sans lui, bah alors on compte totalement sur lui, et c'est lui qui agit, du coup.
Au fond, vous décrivez aussi cette voie aussi, et le génie aussi d'une petite Thérèse de Lisieux, avec cette voie de l'abandon.
Ouais, j'ai pas approfondi Sainte-Thérèse. Le peu que j'ai pu en lire me semble effectivement
l'abandon
beaucoup parler de ça.
L'abandon est le fruit délicieux de l'amour.
Voilà, il y a cette phrase
qui vous a marqué dans votre parcours avant
c'est ça.
L'ordination sacerdotale.
Carrément.
Et de grandes figures mystiques que vous avez évoquées, même d'une Sainte Faustine, avec ce grand message aussi de Jésus pour le monde, message de la miséricorde.
Oui. Bien sûr,
Vous sentez investi en tant que prêtre de ce message de la miséricorde?
Ah oui, voilà. J'ai même, ça fait partie de ma devise d'ordination. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai, ce qui me va évidemment comme un gant en tant que chanteur. Et en plus, étant ordonné à l'année jubilaire de la miséricorde, et ayant créé une chorale qui au début s'appelait Les Enfants de la Miséricorde, maintenant ça s'appelle Cap Cœur, mais voilà, le cœur, on voit à quoi ça fait référence. Et puis, c'est sûr, la miséricorde, c'est l'évangélisation par excellence d'aujourd'hui, hein. Et ça va être un enjeu de plus en plus puissant dans les années à venir, je pense qu'il va y avoir des dons de lucidité de conscience. Je sais pas si ça va être massif d'un coup ou progressif, ou mais il va y avoir de plus en plus de gens. D'ailleurs, la dépression vient de ça, hein, l'espèce de développement de la dépression, c'est cette prise de conscience que mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis nul. Ce qui est faux, hein, on n'est pas nul en soi, mais on voit notre péché, on voit combien notre vie est pourrie. Enfin, et nous, on va avoir cette merveilleuse mission, nous les chrétiens, prêtres, a fortiori, eh bien, de rappeler la miséricorde. Non, ne désespère pas de toi-même. Non, ne désespère pas de ton péché, de tes ténèbres. Il y a le Seigneur t'attend avec ses bras grands ouverts. C'est le Fils prodigue qui envie la bouffe des cochons. Et nous, on devra leur dire non, mais viens, retourne vers le Père. Hein, reviens.
La miséricorde du Seigneur à jamais, je la chanterai. Eh bien, chantons un petit peu aussi avec vous et puis approfondissons surtout cet appel particulier qui repose donc dans la vie de chacun des frères prêtres et en l'occurrence dans votre parcours à vous. Père Benjamin, on vous retrouve, hein, vous restez avec nous, hein, ici dans ces studios. Vous êtes, à demain, même lieu, même heure. Et
merci. À demain.